Terre des hommes. L'émission qui donne la parole aux étudiants étrangers, proposée par le service du recrutement international de l'Université catholique de l'Ouest.
Mademoiselle, madame, messieurs, bonjour, je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle émission de Terre des Hommes, c'est Jean Robin au micro. Et aujourd'hui dans notre studio, nous avons la joie d'accueillir Thérèse Bisset, qui nous vient du Cameroun mais qui vit au Maroc. Elle va nous raconter tout cela dans un instant, à tout de suite.
Terre des Hommes.
Voilà, donc une nouvelle émission de Terre des Hommes. Donc vous avez vu, chers amis, que nous vous avons emmenés dans de nombreux voyages depuis le début de l'année, dans de nombreux pays. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons pouvoir dialoguer simplement et ouvertement avec Thérèse. Bonjour Thérèse.
Bonjour Jean.
Tu vas bien ?
Ah, je vais bien, je suis à Angers, c'est un réel bonheur.
Ah, en tout cas, tu as une mine extraordinaire.
Merci beaucoup.
Bon, il faut dire que tu viens du Maroc quand même.
Ah oui, je suis au Maroc dans le cadre de la mission diplomatique de mon époux.
Voilà, donc Thérèse va nous raconter ce qu'elle fait. Donc en fait, toi Thérèse, aujourd'hui, eh bien, tu représentes le recrutement international dans toute la France et aussi pour l'UCO, dans pas mal de pays d'Afrique, et tu as un parcours un peu particulier puisque tu es camerounaise d'origine.
Oui, je suis camerounaise d'origine, oui.
Et le métier de ton mari t'a mené au Maroc.
Voilà, depuis 4 ans maintenant, je suis résidente au Maroc.
Fait ton mari là-bas?
Alors, il est le chargé des affaires consulaires pour l'ambassade du Cameroun au Maroc.
Donc, en fait, tu as un passeport diplomatique.
Ah oui, oui, j'ai un passeport diplomatique, c'est vrai.
Tu es madame, pas la première dame, mais tu représentes en fait l'État du Maroc, l'État du Cameroun au Maroc.
Voilà,
oui. On est bien d'accord.
Oui.
Alors, explique-nous quand même à nos auditeurs, parce que c'est un chemin particulier. Moi, je t'ai rencontré la première fois à Yaoundé.
Oui, au Cameroun.
Il y a 4-5 ans.
2015, je crois.
Ah oui, c'était tout au début. Hein.
Ouais.
Et c'était sur un salon étudiant où on a vu le ministre de l'enseignement supérieur arriver, l'ambassadeur de France. On était dans la même table, dans le même salon.
Ouais.
Et puis voilà que, pouf, tu quittes le Cameroun pour aller au Maroc. Qu'est-ce que tu faisais au Cameroun lorsque tu as commencé? Et raconte-nous un peu ton histoire quand même.
Alors, au Cameroun, quand je finis des études, forcément, je suis à la télévision. Je suis en stage dans une télévision privée. Et un jour, on me dit, ben voilà, il y a un monsieur qui cherche quelqu'un qui peut promouvoir une université au niveau du Cameroun. Je dis, mais ça, c'est encore quoi? Je ne sais pas ce qu'on fait avec ça. Alors, il me dit, mais venez quand même et vous allez discuter avec le monsieur. Alors, je rencontre monsieur Landry Combe, qui me présente l'université. C'est lui le représentant officiel de l'UCO. Il me présente l'UCO, les formations. Il me dit, il faut promouvoir cette université au niveau du Cameroun. Je dis, d'accord. Je ne lui dis pas comment ça se passe. Je lui dis, OK, est-ce que je peux prendre le temps de vous présenter quelque chose? Parce que là, j'étais pied au mur. Je ne savais pas comment ça se passait.
Comment on fait?
Je lui ai dit, pour me donner quelques jours, le temps que je vous présente un plan de communication. Oui, parce que je suis diplômée en communication. Il me dit, OK, je vous donne un jour. Je lui dis, wow. Ben dis donc.
Ça, c'est Landry de cracher.
Voilà.
Un businessman.
Alors, je rentre à la maison. Je lui dis, mais ça, c'est quoi? OK, il y a Internet. Je tape études en France, j'ai un panel assez large d'informations, je commence à décortiquer. Je tombe sur Campus France, je dis, mais Campus France, c'est quoi? C'est là, je lis la documentation et tout, et le lendemain, je me rends en Campus France. À l'époque, au Cameroun, c'était différent, c'était ouvert, les étudiants arrivaient pour les informations et tout. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Je suis arrivée, j'ai posé mes questions, je me suis fait passer pour une étudiante. Je leur ai dit, voilà, je vais aller étudier en France.
Ah, donc, tu as carrément joué le jeu de la personne qui veut partir en s'inscrivant dans la mobilité internationale d'étudiante auprès des instances de Campus France de Yaoundé, en vue de comprendre comment ça marche.
Pour avoir la bonne information.
Et avoir les informations. Et
voilà.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Elle m'a reçue, à l'époque, il y avait beaucoup d'agents, de jeunes agents, je pense des stagiaires et tout. Elle m'a dit, bon, voilà la plateforme. Comment ça se passe, comment il faut scanner sa documentation, comment faire le choix des écoles et tout. Après, elle m'a donné rendez-vous avec un conseil d'orientation et je suis toujours partie comme une personne qui souhaite étudier en France. C'est comme ça que j'ai récolté les informations, j'ai fait mon plan de communication, de pénétration du marché étudiantin camerounais. Je suis allée voir M. Landry Combe le lendemain en lui disant, voilà ce que je pense, voilà ce qu'on peut faire, voilà, voilà. Et ça, c'est Campus France, voici comment Campus France fonctionne et tout. Il m'a dit, OK, bon, je te prends un essai. Et c'était parti comme ça. Tout le temps, après, il y a eu des salons Campus France, le premier dont tu as mentionné tout à l'heure, et certains ont suivi, et voilà. Et après, mon mari, il est affecté au Maroc, voilà, et je dois partir, parce que c'est vrai, la mobilité internationale, au-delà du travail, aussi de la famille. Je devais partir au Maroc, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire au Maroc? Parce qu'en tant qu'épouse de diplomate, je n'ai pas le droit de travailler sur le sol marocain, mais j'ai le droit d'avoir ma structure. Alors je dis, ben, je vais monter mon cabinet. Je suis sortie de l'école, j'ai commencé à faire la mobilité internationale, c'est ce que je sais faire. Alors j'ai décidé de monter mon cabinet, Thesis Consulting, qui aujourd'hui voilà, est partenaire du CIE et c'est comme ça, je recrute. Étant au Maroc, je descends au niveau du Cameroun, je fais la communication, radio, télé, etc. Et je travaille beaucoup avec les influenceurs.
Ça, c'est tout à fait nouveau pour nous, parce que moi, de ma génération, je ne connais pas trop ça. Moi, je suis un homme de la génération de Facebook. Et en Afrique, on voit déjà que Facebook est supplanté par TikTok, une plateforme chinoise, et ces fameux influenceurs sociaux. Et j'aimerais bien que tu reviennes un peu sur cette question de ces fameux influenceurs sociaux. Comment est-ce que tu fais? Donc, tu quittes le Cameroun, tu découvres le métier en te faisant passer pour une étudiante, tu collectes des informations auprès de la plateforme officielle Campus France, tu reviens vers l'Andricom, effectivement, qui est un Camerounais qui est le représentant officiel de l'UCO aujourd'hui. Tu travailles un peu avec lui, ton mari est muté.
Oui, je travaillais avec Landry pendant 2 ans.
Parce qu'il est diplomate, ton mari. Oui. Et tu suis ton mari. Et au fond, tu te dis, mais je vais continuer ce travail, mais du Maroc. Oui. Et comme je ne suis plus sur le territoire du Cameroun, eh bien, pour pouvoir proposer la mobilité internationale étudiante à des jeunes Camerounais et plus largement à d'autres jeunes Africains, il faut que je m'appuie sur les influenceurs sociaux. Alors raconte-moi, qu'est-ce que c'est que ces influenceurs sociaux? Comment est-ce que ça se définit? Comment est-ce qu'on devient un influenceur social? Et comment est-ce que toi, tu t'appuies sur eux pour en fait faire ton travail et ton business?
Alors, je ne sais pas s'ils ont la même, comment je peux dire, si ça se passe de la même manière en France qu'au Cameroun, mais j'avais fait un constat, c'est que on se retrouvait tous sur leur plateforme. Tu t'en rendais compte qu'une jeune actrice au Cameroun a 1 million de vues sur un post et je voyais des entreprises camerounaises.
Un post pour nos auditeurs, c'est lorsque tu
publies
quelque chose sur une plateforme.
Voilà,
et qui est vu 1 million de fois.
1 million de fois.
Dans la journée ou dans la semaine.
Dans la semaine et tout. Je me suis dit, mais ça peut être utilisé pour la communication. Vu que je ne suis pas sur place, je ne peux pas faire les descentes sur le terrain. J'ai donc commencé à les contacter. Et c'est comme ça avec eux, je signe des contrats sur 1 mois, sur cinq postes, sur 3 semaines. Et voilà. Et là, le retour des étudiants que j'avais, j'ai dit, mais dis donc, l'impact que ces jeunes qu'on regarde sur les réseaux sociaux, ces jeunes femmes qu'on regarde sur Snapchat, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, c'est formidable.
Tu me disais tout à l'heure, excuse-moi de te couper Thérèse, tu me disais au déjeuner, quand je me lève le matin, j'ai des centaines de mails d'arrivée.
Mais est-ce que tu sais, on a fait des directs sur TikTok. Le lendemain, je me suis réveillée, j'avais 250 messages, j'ai dit, mais je réponds comment? Je réponds comment?
Donc, tu as envoyé des messages grâce à ces influenceurs sociaux qui sont vus et lus et entendus par des milliers de jeunes. Parfois, tu m'as dit même par des dizaines de milliers.
Ouais.
Et tu proposes à ces jeunes, pour accomplir et finaliser leur projet universitaire et finalement professionnel, de venir partir étudier en France. Et tu les accompagnes grâce à ton entreprise.
Voilà, on leur propose un accompagnement global. C'est-à-dire, on leur présente les offres en termes de formation et c'est là que le CIE fait son grand entrée avec ce panel assez large de formation. On leur présente ces formations. Quand ils sont intéressés par une formation, on fait un accompagnement de l'admission, suivi des dossiers, la préparation aux entretiens et on monte leur dossier Campus France parce que, bon, au niveau du Cameroun, beaucoup de jeunes n'ont pas accès à Internet, n'ont pas d'outils informatiques. Alors, Campus France exige un certain grammage. Nous, on fait ça pour eux et on monte le dossier, on les accompagne vraiment jusqu'à ce qu'ils s'installent ici.
Donc, en fait, si on résume, tu habites au Maroc et tu aides des jeunes Camerounais à venir étudier en France, alors que c'est deux pays distants de 3500 km.
Voilà, des jeunes Camerounais, peu importe où ils sont. Parce que, par exemple, à la rentrée de janvier, j'ai eu 3 jeunes Camerounais qui étaient en Turquie et qui ont intégré une école de commerce en France. On les a accompagnés sur l'ensemble de la procédure.
Alors, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu demandes à ces jeunes influenceurs sociaux lorsque tu passes un contrat avec eux ? Alors, c'est une discussion plus technique, mais c'est intéressant parce que finalement, ça montre aussi à nos auditeurs une sorte, j'ai envie de dire, une image de l'Afrique. On aurait tendance à dire, oui, mais en Afrique, le Internet ne marche pas trop bien, la fibre n'est pas installée partout, ce qui est d'ailleurs assez faux puisqu'elle est en train d'être installée partout, la fibre optique. Mais en fait, c'est faux parce qu'on se rend compte que vous, les jeunes Africains et les jeunes Africaines, vous vous êtes pleinement emparés des réseaux sociaux pour développer ce continent et pour travailler avec l'Europe et l'Occident et l'Amérique du Nord. Donc, qu'est-ce que tu leur proposes à ces personnes qu'on appelle les influenceurs sociaux ? Ça se passe comment, là, un contrat ? Qu'est-ce que tu leur demandes, en fait ?
Alors, moi, par exemple, la semaine prochaine, comme je te le disais, on va travailler avec une jeune actrice très connue. Elle a 1 million de followers sur...
Followers, pour nos auditeurs, je pense que tout le monde a compris, mais néanmoins, c'est des gens qui suivent cette jeune actrice.
Voilà, sur Facebook, elle a... presque 800 000 sur Insta. Alors, j'ai signé un contrat avec elle. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va mettre sur sa plateforme les spots. Je fais des mini-spots.
Des tournages, des petits films.
Effectivement, je travaille avec des infographes et une journaliste. C'est elle qui pose la voix, qui explique en quelques secondes ce que c'est que le cabinet.
Tu as 15 secondes, quoi.
Oui. Bon, généralement, ça va sur Facebook. On essaie d'aller sur 1 minute.
D'accord.
Voilà, pour donner un maximum d'informations, mais pas tout, pour permettre aux étudiants de susciter la curiosité qui va les ramener. Et je fais un message pour qu'elle poste juste ce que je veux. Je ne la laisse pas faire la rédaction du message que je souhaite passer. D'accord. C'est-à-dire qu'au-delà de la vidéo, il y a un message qui accompagne et qui les renvoie sur ma messagerie WhatsApp et ma page Facebook.
Donc, tu délivres clé en main un message et tu charges cette personne influenceuse ou influenceur social de récupérer ce message que tu lui donnes pour qu'elle le pose elle-même sur sa propre plateforme.
Voilà.
Là où il y a 1 800 000 personnes qui suivent. Et tu espères que les gens vont te voir et pouvoir te contacter sur tes propres outils de communication.
Ils vont s'abonner d'abord, beaucoup s'abonnent sur ma page. Je vois par exemple, en 2 semaines, j'ai vu 500 personnes s'abonner sur ma page Facebook. Donc, sincèrement, c'est le seul moyen de toucher la jeunesse camerounaise en particulier, mais la jeunesse africaine en général, parce qu'elle est présente, mais omniprésente sur les réseaux sociaux.
Chers auditeurs, nous allons marquer une première pause, mais vous voyez, et ça c'est très intéressant de le voir, enfin, moi qui vais souvent en Afrique, je m'en rends compte bien entendu, c'est que l'Afrique n'est pas du tout en reste sur les réseaux sociaux. Elle est même avant-gardiste. Moi, je vois dans certains villages, j'étais à Côte d'Ivoire il y a 15 jours, j'ai vu des villages encore avec des toits de chaume. Et à côté de ça, des antennes paraboliques directement reliées au satellite, avec des débits de réseaux sociaux incroyables. Ouais. Et les jeunes, ils sont là avec... Ils n'ont pas d'ordinateur, mais ils ont leur smartphone.
Voilà.
Et avec ça, ils sont connectés, ils font leur business, ils transfèrent de l'argent, ils s'inscrivent, ils trouvent de l'emploi. Et j'aimerais que, avant cette deuxième partie de l'émission, ces quelques minutes qui vont nous rester, tu puisses peut-être nous parler. Mais comment toi, tu vois la jeunesse africaine ? Tu es une jeune femme. Ouais. La place de la femme, notamment, dans ce développement, on se retrouve tout de suite.
Thank you.
Thérèse, donc nous avons la joie de t'accueillir sur ce plateau de Radio Campus, radio associative qui émet sur tout le bassin de d'Angers et qui a de plus en plus d'auditeurs. Nous, en tout cas, on publie sur nos réseaux sociaux et nos sites internet l'intégralité des podcasts. Et donc, tu nous viens du Cameroun, tu habites au Maroc et tu nous parlais comment toi, du Maroc, tu utilises les réseaux sociaux et notamment les influenceurs sociaux pour faire ton travail, ton business et préparer, proposer aux jeunes Africains, aux jeunes Africaines, cette fameuse mobilité internationale étudiante. Tu nous l'as très bien expliqué, je vois que tu n'es pas du tout en retard. Au contraire, moi j'aurais beaucoup de choses à apprendre de ta part, parce que j'en suis très loin d'utiliser ces réseaux de la même manière que toi. Ma dernière partie, j'aimerais qu'on l'oriente plus sur la place de la jeunesse en Afrique, et notamment des jeunes femmes, parce qu'on parle surtout voilà, des businessmen et de ces jeunes qui ont le costard cravate et l'attaché case, même en sortant du bureau Yaoundé où il fait 28 ou 30 degrés. On voit beaucoup ces jeunes hommes d'affaires et qui font du business avec l'international, les Émirats arabes unis, j'ai envie de dire le Royaume du Maroc et l'Europe. Mais toi, tu es cette jeune femme passeport diplomatique, biculturel, qui est en France aujourd'hui. Comment tu vois aujourd'hui l'évolution de la jeunesse africaine et notamment des jeunes femmes dans l'environnement social, professionnel et économique?
Alors, je pense que ça a beaucoup changé. Parce qu'il y a en Afrique ce qui pèse beaucoup sur la femme et surtout sur la jeune femme, qui est la culture. Mmh. On a tendance à dire que la femme est le sexe faible, la femme ne doit pas faire ça, la femme ne doit pas faire ça. Mais aujourd'hui, je vois même nos chefs d'État ont mis un accent sur la formation de la jeune femme, sur l'éducation de la jeune femme. Et l'éducation l'éducation est en train d'émanciper la jeune femme africaine, notamment celle du Cameroun. Donc, elle développe des choses, elle développe des projets, elle est devenue businesswoman, lady boss et tout ça. Et à côté, elle doit gérer sa famille, ce qui est mon cas. Elle arrive à combiner vraiment l'aspect professionnel et l'aspect familial. Moi, je pense que la jeune femme aujourd'hui au Cameroun, en Afrique, elle se bat comme elle peut avec. On ne va pas balayer d'un revers de la main le poids de la culture ou bien le regard social, mais elle se bat avec les outils qu'elle a et elle essaie de se démarquer de plus en plus.
Comment tu fais, notamment au Maroc, parce que quand même, le Maroc est un pays musulman, oui. Avec tout le respect qu'on a pour nos frères et sœurs marocaines hein, et nos amis marocains et marocaines. Mais quand même, comment tu fais, toi, pour gérer ce travail de jeune businesswoman avec l'entrepreneuriat, les contrats que suscite ce travail, parce qu'il faut travailler avec des universités en toute oui. la France et l'Europe, alors que tu es dans un environnement où quand même la femme n'a pas trop sa place dans le business, ou je me trompe? Comment tu fais pour exister en tant que jeune femme entrepreneur dans un pays qui... Je peut-être me trompe, mais dans un pays qui, a priori, ne laisse pas quand même beaucoup de place aux femmes dans le monde du travail, au Maroc notamment.
Oui, alors je pense que c'est beaucoup plus grâce à mon mari aussi. Mm-hmm. Parce que pour que je sois à Paris, il faut qu'il le permette.
Ah oui, d'accord, tu ne pourrais pas venir Tu habites à Rabat, n'est-ce pas?
Oui.
Tu ne pourrais pas quitter Rabat et venir à Paris sans que ton mari l'ait autorisé officiellement?
Non, pas officiellement. Je veux dire dans le sens que moi, je suis maman, par exemple. Mm-hmm. J'ai des enfants en bas âge. Mm-hmm. Donc, pour pouvoir les laisser, il faudrait... Mm-hmm. Je ne peux pas les abandonner avec une ménagère.
Je comprends.
Donc, il faut que mon mari soit disposé à avoir un œil, ce qui est normal d'ailleurs, mm-hmm. sur son enfant. Mm-hmm. Mais en Afrique encore, il y a des hommes qui n'acceptent pas que leur femme voyage comme ça, même au-delà du Maroc. Mm-hmm. Même dans la communauté africaine, c'est-à-dire l'Afrique subsaharienne qui est au Maroc, même dans le cadre de la diplomatie, mm-hmm. on est souvent étonné de voir que je suis au Congo, je suis en Côte d'Ivoire, je suis en France et tout dans le cadre de mon travail. Ça, en premier, c'est parce que mon conjoint vraiment il a compris que j'ai besoin, en tant qu'être humain, de me réaliser professionnellement. Et ça va aussi de l'équilibre familial.
Je le confirme d'ailleurs, puisque j'ai eu la joie de te rencontrer en Côte d'Ivoire, j'ai eu la joie de te rencontrer au Congo, Brazzaville, au Congo Kinshasa et au Cameroun. Oui. Mais quand même, tu n'as pas l'impression quand même de casser des codes sociaux, des codes familiaux et culturels? C'est-à-dire, au fond, tu fais quelque chose qui vient bouleverser les traditions.
Ben oui, je casse les codes.
Et c'est pas trop violent quand même? Je veux dire, non pas de ta part, mais ceux qui sont plus conservateurs, en fait, te renvoient comme image de toi-même. Ils ne font pas de pression pour te dire, écoute, ma petite Thérèse, c'est gentil, mais ta place, c'est quand même pas de faire ça. Ça, c'est le rôle des hommes, non?
Non, la place de la femme n'est plus à la cuisine. Ça, on le leur dit, hein. Il faut qu'on nous laisse. On a quelque chose à proposer. Pour construire une société, ce n'est pas seulement les hommes qui vont construire la société. La femme, la jeune fille est là plein de choses à apporter. On est intelligente, on est surdiplômée, on est... qu'on nous laisse aussi marquer notre territoire, marquer notre empreinte. Je suis désolée. Ouais. Moi, autant mieux, oui. Même les consoeurs, dans le cadre de la diplomatie, me disent, mais oui, tu es dans les réseaux sociaux, tu as un époux diplôme. Je leur dis, mais attends, je vis mon passage sur Terre. Et ça, ça passe aussi par ma carrière professionnelle. Et ça, mon époux, il a compris. Diplomatie ou pas, je dois bosser. Il faut que je construise une carrière. Et j'ai quelque chose à proposer à la jeunesse africaine qui veut soit acquérir d'autres prérequis, soit compléter le parcours qu'ils ont déjà ou aller chercher une autre nouvelle compétence. Moi, je suis une passerelle qui leur permet d'accéder à ça. Pourquoi je vais me priver de ça? Parce que je suis une femme africaine? Non, je suis désolée. Je pense qu'on a dépassé ça. En 2022, la femme africaine, elle doit faire ce qu'elle veut du moment où ça respecte les normes et que, voilà, on ne fait rien qui va à l'encontre des mœurs. On travaille juste.
C'est magnifique ce que tu dis parce que, clairement, ce n'est pas si évident que ça. Hein. On voit beaucoup de jeunes filles qui, parfois même, viennent à ce micro, mais qu'on rencontre sur le terrain, nous, ouais, notamment en Afrique de l'Ouest, et qui nous racontent la pression de leur famille, qui n'ont pas le droit de faire tel ou tel business, qui, parfois même, pour voyager, c'est la croix et la bannière pour obtenir l'autorisation des parents, voire même des oncles, ouais, pour pouvoir partir. Ouais. Et toi, tu nous montres une jeune femme dynamique qui a envie de prendre part dans le développement de son pays, de son continent. C'est quand même absolument, extraordinaire. C'est vrai, c'est plus peut-être un modèle, mais je dirais en tout cas, c'est un bel exemple pour toutes ces jeunesses africaines, non?
Mais oui, il faut soulever. Par exemple, moi, mon mari, il est musulman. Mmh. Et moi, je suis chrétienne. Mmh. Et on arrive à vivre dans cette, symbiose, sans qu'il y ait difficulté majeure, en fait.
Ça, c'est extraordinaire, parce que ton mari est musulman. Oui. Toi, tu es d'origine de culture chrétienne. Et oui, tu vas déployer une vie professionnelle dans un milieu où, traditionnellement, la femme ne peut pas faire grand-chose sans autorisation de son mari.
Ouais.
Et là, tu prends ton envol, en fait.
Ben oui, je prends mon envol. Et je me dis aussi que peut-être c'est ça qui a plu à mon époux. Cette indépendance-là, cette capacité à être dynamique, à ne pas être comme, généralement, les jeunes filles...
Soumise,
voilà. Bon, je suis une épouse soumise. Bon, maintenant, tout dépend de ce qu'on entend par soumission.
C'est ça. Si la soumission, c'est de disparaître, de ne pas exister, c'est pas la bonne soumission.
C'est pas la bonne soumission.
Mais si c'est dialoguer, discuter,
collaborer
et trouver une organisation de couple qui fasse que tout le monde s'y retrouve, c'est autre chose.
Voilà.
Le mot soumission, effectivement, nécessiterait un débat à lui seul. Écoute, Thérèse, moi, ça m'interpelle beaucoup ce que tu dis parce que d'abord, effectivement, nous recrutons beaucoup de jeunes filles pour venir étudier à LUCO,
ouais,
et dans les autres plateformes également lorsqu'elles ne trouvent pas à LUCO ce qu'elle veut faire. Et on se rend compte que, notamment pour les jeunes africaines, c'est vraiment un poids qu'elles portent. Hein.
Ouais.
On a l'impression, lorsqu'elles viennent en Europe, qu'elles veulent aussi, non pas couper, mais se réaliser par elles-mêmes. J'ai envie de dire, s'approprier leur propre culture pour la vivre à leur façon, en retrouvant, ou plutôt en développant une certaine liberté.
Ouais.
Et c'est pas sans souffrance, en fait.
Oui, c'est pas sans souffrance parce que le poids de la famille, et la famille, elle est très présente, la famille africaine. C'est tout le monde qui donne son point de vue, la tante elle donne son point de vue, l'oncle donne son point de vue. Et parfois même, par exemple, moi je me marie, c'est pas ma mère, bon, qu'elle repose en paix, mais c'est pas ma mère, c'est pas mon père qui décide. Ce sont les oncles qui vont s'asseoir, qui vont dire, ben elle a dot, il faut ça.
Wow.
Ce sont pas mes parents.
Wow.
On va te dire, oui, en fait... La famille africaine, elle est très présente. Il faut, entre guillemets, être têtu pour sortir de là et s'imposer.
Mmh.
Et de plus en plus, vous allez trouver des jeunes femmes comme moi qui s'imposent, qui se battent pour leurs idées, qui imposent leurs idées. Moi, je pense qu'on a... C'est notre continent. Mmh. On doit le construire. Ils n'ont pas intérêt à nous mettre de côté, d'ailleurs.
Bien sûr. Et d'ailleurs, je peux en témoigner auprès des auditrices et des auditeurs qui nous écoutent. Thérèse est une partenaire impressionnante. Elle a des résultats magnifiques, alors qu'elle travaille avec nous depuis combien de temps maintenant, officiellement, depuis le mois de décembre?
Oui, hein. depuis décembre.
C'est ça, et tu as déjà obtenu des résultats incroyables. Tu recrutes des bons candidats qui sont bien appropriés à nos formations et qui te respectent parce que tu fais un très bon travail d'accompagnement. Et je peux témoigner de l'expertise d'expertise dont tu fais preuve. Ouais. Pour terminer, là, puisqu'il nous reste 2 minutes, quel message tu aurais envie de dire et de profiter de Radio Campus? Parce que tu sais que cette émission, lorsque Étienne, notre chef qui est derrière la vitre, là, qui l'aura mise en, qui va d'abord la publier sur les ondes et ensuite la diffuser sur les ondes et ensuite nous allons la récupérer pour la mettre sur nos réseaux sociaux via des liens internet. Donc tu vas être écouté parce que bientôt cette émission, moi je vais la mettre sur Facebook où j'ai aussi 1200 personnes qui suivent mes pages. Ouais. Et puis tu pourras toi-même la relayer d'ailleurs. Donc tu vas être écouté. Donc je reviens à ma question. Quel message, que je termine, je n'avais pas terminé, quel message tu aimerais donner, transmettre aux jeunes filles qui t'écoutent, jeunes filles subsahariennes qui t'écoutent à l'instant, là, à l'instant tout de suite? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire en 1 minute 30?
Qu'elles doivent se battre pour leurs rêves. Que personne ne fera l'expérience de la réussite à leur place. Que oui, le mariage c'est bien, je suis mariée. Mais au-delà de ça, il faut se construire en tant qu'être humain. Et la satisfaction passe par le travail aussi, les résultats qu'on peut, engendrer lorsqu'on a construit quelque chose. Elles doivent se battre.
Et les études?
Les études. Parce que chez nous en Afrique, je ne sais pas si ça se dit ici, les études ne sont pas le seul chemin par lequel on réussit, mais c'est le chemin le plus sûr. Mmh. Et c'est pour ça que je fais la mobilité internationale. Mmh. Leur proposer des programmes qui vont permettre à ces jeunes femmes d'avoir des prérequis, des compétences dans pas mal de domaines. Et surtout de penser au retour, parce que c'est avec nous que nos pays en Afrique vont se construire. Donc moi, je les encourage dans une mobilité internationale bien encadrée, bien structurée, pour un projet d'études bien pensé, un projet professionnel qui, par après, va réussir.
Donc, en fait, tu dis, outre le business que je fais, moi, ma mission, c'est d'aider ces jeunes filles et ces jeunes garçons à faire de bonnes études.
Bien sûr.
Puis à revenir au pays pour servir ce pays et y inscrire leur véritable marque pour que ce pays avance, ce continent avance, dans le respect de chacun.
Chacun doit apporter sa contribution dans la construction de ce qui sera l'Afrique de demain. Et nous sommes l'Afrique de demain, pour nous-mêmes d'abord, mais pour nos enfants aussi, nos petits-enfants. Et ça doit commencer. Ben, je pense que peut-être la génération avant moi ou un peu avant moi a déjà commencé. Et nous, on doit soulever ce qu'ils ont commencé. Il n'est pas question que la jeune femme africaine reste là, spectatrice, à se morfondre, non. Elle doit se battre et les réseaux sociaux nous aident pour ça.
Et tu t'en empares pleinement. Ce sont des outils d'émancipation, de promotion.
Ouais.
Et ça, c'est magnifique.
Ouais.
Bah écoutez, chers auditeurs et auditeurs de Radio Campus Terre des Hommes, nous sommes tellement ravis d'avoir écouté Thérèse, qui nous donne un grand esprit, un grand bol d'air, de fraîcheur. Vous la voyez pas, moi je l'ai en face de moi, mais elle est ravissante, elle est joyeuse, elle est souriante. Et travailler avec des jeunes personnes comme ça, je peux vous dire que ça nous pousse en nous disant, mon gars, ne t'endors pas, si tu veux continuer de faire partie de The World, eh bien il faut y aller parce que derrière ça pousse. Merci Thérèse, bonne chance, tu retournes à Paris ce soir, tu retournes au Maroc quand?
Dimanche matin.
Eh bien écoute, bon retour, on se revoit, j'espère au Maroc prochainement, pour une mission qu'on prépare.
Avec plaisir. Allez, merci de m'avoir reçu ici
à l'ICO. À tous, bonne fin de journée et à bientôt Radio Campus. Merci beaucoup Étienne, salut.
À bientôt.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.